France Inter. Les admirations littéraires de Fabrice Luchini sur France Inter.
Bonsoir. Eh bien, on va attaquer maintenant un poète incandescent. Un poète, pas d'inquiétude, hein. C'est pas un poète, c'est pas abstrait, hein. C'est pas la caricature. Vous savez, je pense toujours à cette phrase merveilleuse de Paul Valéry sur la poésie. Elle est compliquée, mais quand même très simple en même temps. La plupart des hommes ont une idée si vague de la poésie que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Ça a l'air de rien, mais c'est assez extraordinaire. Alors là, on va attaquer un poète mythique, un poète génial, là le mot génial est justifié, un poète sur lequel on a écrit comme jamais dans l'histoire de la littérature depuis l'Antiquité. Ce poète, c'est Rimbaud. Rimbaud que j'ai essayé de servir dans certains spectacles. Rimbaud, Arthur Rimbaud, auquel on associe immédiatement le rimbaldisme, les photos dans les chambres d'adolescents, le révolté, le voyageur, le voyant, le drogué, le Rimbaud qui, au sommet de sa maîtrise artistique, va arrêter, le Rimbaud qu'arrête, parce que la fulgurance, c'est de 14 à 20 ans, hein, je suis large. De 14 à 20 ans, est-ce que c'est une admiration ? C'est surtout une fascination. Rimbaud, l'incarnation de la précocité. Il commence à 14 ans, en gros, et à 20 ans, ça y est, il a réglé le problème, il ne veut plus entendre parler de quoi que ce soit, et il part errer en Abyssinie. Rimbaud, l'histoire d'un homme dont la création a bouleversé la littérature. Et le Rimbaud sur lequel on connaît le moins de choses, parce qu'on ne sait pas, quand on sait que un des plus grands personnages du début du siècle qui travaillait chez Gallimard, qui s'appelait Jacques Rivière, qui était le spécialiste d'Antonin Artaud, un grand éditeur, grand ami de Marcel Proust. Cet homme, Jacques Rivière, a écrit la chose suivante. « Le passage d'Arthur Rimbaud est une des aventures les plus extraordinaires qui soit arrivée à l'humanité. » Le passage d'Arthur Rimbaud est une des aventures les plus extraordinaires qui soit arrivée à l'humanité. Rimbaud, c'est incroyable. D'abord, il faut séparer 3-4 Rimbaud. Il y a le Rimbaud adolescent, qui est celui de la révolte, qui est, à mon avis, le plus accessible. C'est le Rimbaud entre 15 ans et 17 ans. C'est le Rimbaud qui est résumé par les cahiers de Douai. Ces cahiers de Douai, il a fait une fugue et il a été chez la famille de son prof qui s'appelait Isambard. Et il a recopié très sérieusement. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a voulu qu'on brûle après. C'est fascinant. Il a été dans la famille d'Isambard qui habitait à Douai. Et très scrupuleusement, il a réécrit. Faut jamais oublier que Rimbaud était premier en thèse latine et grecque. Ça ne veut pas dire que tout mec qui est fort en latin, en grec, en ENA, en grandes écoles, va faire un Rimbaud. Non, on peut être con comme un balai. Mais en même temps, il n'y a pas de Rimbaud s'il n'était pas premier en latin et en grec. C'est très étonnant. On peut être premier en latin et en grec et ne pas du tout être Rimbaud. Mais par contre, on ne peut pas être Rimbaud si on n'a pas cette maîtrise-là. Et ses cahiers de Douai, il les a écrits, des premiers poèmes où il avait 14-15 ans. Et je vais commencer par le Rimbaud compréhensible. D'ailleurs, quand il est parti, sa mère, qui l'appelait la Moser, était folle de rage. Elle a voulu absolument qu'il revienne. Et le pauvre Georges Isambard s'est fait insulter par sa maman. Et les premiers poèmes qu'il a écrits, je pense vraiment qu'il avait 14 ans et demi, c'est des poèmes sur l'errance dans la campagne. Je crois qu'il n'y a pas un écologiste plus immense que Rimbaud. C'est le grand poète de la nature. Hugo aussi. Mais Rimbaud, c'est incroyable. Vous imaginez qu'à 14 ans et demi, il écrit à travers une fugue, à travers un moment où il part. Depuis 8 jours, j'avais déchiré mes bottines au caillou des chemins. J'entrais à Charleroi, au cabaret vert. Je demandais des tartines de beurre et du jambon qui fut à moitié froid. Bien heureux, j'allongeais les jambes sous la table verte. Je contemplais les sujets très naïfs de la tapisserie. Et ce fut adorable quand la fille aux tétons énormes, aux yeux vifs, celle-là, c'est pas un baiser qui l'épeure, rieuse, m'apporta des tartines de beurre, du jambon tiède dans un plat colorié, du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Il se promène dans la campagne, il s'arrête dans un cabaret, il y a une fille avec une poitrine très merveilleuse, et puis elle lui apporte du jambon rose et blanc parfumé d'une gousse d'ail et m'emplit la chope immense avec sa mousse que dorait un rayon de soleil arriéré. Alors, évidemment, il y a encore du Hugo comme influence, il y a du Baudelaire, évidemment, mais la phrase, le génie de sa langue va arriver très vite.
C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent.
Et évidemment, il y a le dormeur du Val. Là, ça commence à être vraiment très, très important. Là, Reggiani l'a mis en musique, donc ça, il le fait remarquablement bien. Mais moi, évidemment, ce n'est pas du tout mon travail de mettre en musique les mots de Rimbaud. Et Reggiani était remarquable dans son adaptation. Mais moi, je me contenterais de dire « c'est un trou de verdure ». Où chante une rivière accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fier lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle, dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, il dort dans le soleil. La main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. C'est extraordinaire. La vie, la mort. Ce gosse de 15 ans voit un soldat dans la campagne et il ne dit pas qu'il est mort puisqu'il dit il a froid. Ça veut dire qu'il vit encore. Il avance, les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature berce-le chaudement. Il a froid. On est au courant de rien. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Par le négatif, il nous emmène à sa volonté. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil. Pour moi, ça, c'est un miracle. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Ouh là là, faut pas les dire, ces textes-là, C'est fabuleux au niveau du rythme, c'est merveilleux, vous vous rendez compte, ces quelques mots. Il dort dans le soleil, sa main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. La mort. Le Buffet, par exemple, qui est encore nourri de son admiration sans borne pour Baudelaire, c'est un large buffet. Il a 15 ans, dans cette époque encore, C'est un large buffet sculpté, le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre, comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons, de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Au buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires et tu voudrais compter tes contes et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Fameuse chose muette dont parlait Baudelaire. Mais là, on voit qu'il est disciple de Baudelaire. Son buffet, ça ressemble à Baudelaire. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Un gros meuble à tiroirs encombré de bilans, de verres, de billets doux, de procès, de romances, avec de lourds cheveux roulés dans des quittances, cache moins de secrets que mon triste cerveau. C'est une pyramide. Un immense caveau. Évidemment, il y a le chef-d'œuvre qui va arriver de Rimbaud. C'est toujours écrit à 15 ans. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers picotés par les blés foulés, l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas. Je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Ça a l'air de rien, mais il est l'incarnation de ce que tous les moines bouddhistes, ou les moines soufistes, ou les moines chrétiens, tout ce que les gens cherchent, c'est-à-dire un état de vide intérieur pour que l'amour te traverse. C'est quand même étonnant, il a 14 ans et demi ou 15 ans, et il dit par les soirs bleus d'été, hein, les soirs bleus d'été, d'accord. J'irai dans les sentiers, picotés par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Et sensation énorme, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Voyez que, à quel point la sensualité de Rimbaud, elle est très hétérosexuelle. Il n'y a pas de question de savoir si c'est bien qu'il soit devenu homosexuel, je m'en fous complètement. Mais l'amour qu'il a pour les femmes est très puissant, c'est très important. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. C'est l'homme débarrassé du moi encombrant, quoi. C'est la sensation. Il a 14 ans et demi. Et il écrit « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. » Après, on a plein d'autres choses merveilleuses. J'ai écrit un petit peu avant de faire cet enregistrement et j'ai répété des centaines de fois « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. » Et je me dis à moi-même, ils ont compris quand même que, voilà, il a 14 ans ou 15 ans et il écrit ça. « Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. » Ça donne un peu la bizarrerie de la condition de comédien un peu pathétique qui répète inlassablement. Alors, il y a un poème qui montre à quel point il est fou des jeunes femmes. Il y a un poème qui s'appelle « Première soirée ». Et là, encore une fois, il a 15 ans, 15 ou 16 ans. Elle était fort déshabillée et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malignement tout près, tout près. Assise sur ma grande chaise, minue, elle joignait les mains. Sur le plancher frissonnaient dès ses petits pieds, si fins, si fins. Je regardais, couleur de cire, un petit rayon buissonnier papillonner dans son sourire et sur son sein, mouche au rosier. Je baisais ses fines chevilles. Elle eut un doux rire brutal qui s'égrenait en clair trille. Un joli rire de cristal. Les petits pieds sous la chemise se sauvèrent. « Veux-tu finir ?» La première audace permise, le rire feignait de punir. Pauvre et palpitant sous ma lèvre, je baisais doucement ses yeux. Elle jeta sa tête mièvre en arrière. « Oh, c'est encore mieux. Monsieur, j'ai deux mots à te dire. » Je lui jetai le reste au sein dans un baiser qui la fit rire d'un bon rire qui voulait bien. Elle était fort déshabillée, et de grands arbres indiscrets aux vitres jetaient leurs feuillets malignement tout près, tout près. Ça peut pas être bien dit, parce que c'est tellement pur, c'est tellement magnifique. Enfin, on fait ce qu'on peut, on essaye de le dire le plus à plat possible, et puis on arrive sur le chef-d'œuvre que tout le monde connaît, que toutes les adolescentes ont appris par cœur. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants, on va sous les tilleuls verts de la promenade. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit, la ville n'est pas loin à des parfums de vigne et des parfums de bière. Voilà qu'on aperçoit un tout petit chiffon d'azur sombre encadré d'une petite branche piquée d'une mauvaise étoile qui se fond avec de doux frissons petites et toutes blanches. Nuit de juin, 17 ans. On se laisse griser. La sève est du champagne et vous monte à la tête. On divague. On se sent aux lèvres Un baiser qui palpite là, comme une petite bête. Le cœur fou Robinson, à travers les romans, lorsque dans la clarté d'un pâle réverbère passe une demoiselle, aux petits airs charmants, sous l'ombre du faux col effrayant de son père. Et comme elle vous trouve immensément naïf, tout en faisant trotter ses petites bottines, elle se tourne alerte et d'un mouvement vif sur vos lèvres, alors meurent les cavatines. Vous êtes amoureux, loué jusqu'au mois d'août. Vous êtes amoureux. Vous sonnez la font rire. Tous vos amis s'en vont. Vous êtes mauvais goût. Puis l'adoré un soir a daigné vous écrire. Ce soir-là, vous rentrez aux cafés éclatants. Vous demandez des bocs ou de la limonade. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans et qu'on a des tilleuls verts sur la promenade. Maintenant, c'est la musique admirable, c'est Alléluia, mais cette fois-ci, c'est de Jeff Buckley.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini sur France Inter.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. There was a time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew.
Fabrice Lucchini lit Arthur Rimbaud.
Alléluia. Voilà ce que ce jeune homme était capable d'écrire. Voilà. Et à un moment, très vite, la langue va arriver à autre chose, assez rapidement. Il faut attendre une année. Aux alentours de 1871, je ne suis pas un prof de littérature, j'ai quitté l'école tellement tôt que je ne me souviens même pas ce que j'ai appris, je crois que c'était CM2. Donc je ne vais pas faire le prétentieux qui connaît la théorie de la littérature. Moi, j'essaye d'être un exécutant et à force de lire, à force de dire des textes au théâtre, eh ben, j'ai une petite intuition sur les textes, bien imparfaite évidemment. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une langue qui va se transformer, ça ce n'est pas un truc d'intellectuel. Je le sens que sa langue, c'est le premier texte qui commence à se compliquer. Je ne parle pas de la saison en enfer ni des illuminations qui, moi, me semblent, à mon niveau, trop incompréhensible en ce qui me concerne. Peut-être que les auditeurs de France Inter sont plus pointus que moi. Moi, j'ai jamais réussi vraiment, et Dieu sait que je m'y suis mis. Mais on va commencer à assister à un changement. Par exemple, Les Poètes de 7 ans. C'est Christian Vincent avec qui j'ai fait un film merveilleux, deux films merveilleux qu'on comptait dans ma vie. Il y avait La Discrète, et puis après ce merveilleux film, L'Hermine sur la justice, merveilleux avec... Et je ne peux pas écorcher le nom de l'actrice, mais qui vient du Danemark, qui est une merveille à côté de la Suède. Ça a été merveilleux. Et il adorait Les Poètes de 7 ans. Et je me suis dit, je vais m'y mettre. C'est comme ça hein, qu'on rentre dans la littérature. Quelqu'un vous dit, c'est génial. C'est Philippe Leguay qui m'a entraîné à refaire l'Amérique sur le cinéma, le grand texte sur le cinéma, etc. Et je me suis dit, il faut que j'attaque. Alors, le poème des poètes de 7 ans, on rentre déjà là, il abandonne cette langue. Là, il va devenir le génie Rimbaud, là. Il était un grand écrivain précoce et là, il va commencer à devenir Arthur Rimbaud, la plus grande légende de tous les temps. Arthur Rimbaud. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait, satisfaite et très fière, sans voir dans les yeux bleus et sous le front plein d'éminence, l'âme de son enfant... livré aux répugnances. Tout le jour, il suait d'obéissance, très intelligent. Pourtant, des tics noirs, quelques traits, semblaient prouver en lui d'âcres hypocrisies. Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies, en passant, il tirait la langue, les deux poings à laine, et dans ses yeux fermés, voyait des poings. Une porte s'ouvrait sur le soir. À la lampe, on le voyait là-haut qui râlait sur la rampe sous un golfe de jour pendant du toit. L'été, surtout. Vaincu, stupide, il était entêté à se renfermer dans la fraîcheur des latrines. Il pensait là tranquille et livrant ses narines. Et là, c'est un deuxième strophe qui a l'air compliqué, mais qui est simple. Il va parler de sa maison, et à côté de sa maison, il y a des gens très pauvres. Et lui, il n'aime que les gens très pauvres, et il va au fond de sa cour, et par un petit trou dans le mur, il va essayer de capter ce que se font ces gens très pauvres qui habitent à côté de chez lui. Alors, quand lavé des odeurs du jour, le jardinet derrière la maison, en hiver, s'illunait, gisant au pied d'un mur... enterré dans la Marne, ça veut dire qu'il va tellement bas qu'il est presque à la hauteur du fleuve, et pour des visions écrasant son œil d'arne, et pour avoir la vue, il est obligé d'écraser ses yeux, il écoutait grouiller les galeux espaliers. C'est bizarre d'appeler ses enfants des espaliers, mais il dit pitié, ses enfants seuls étaient ses familiers, qui chétifs, front nu, œil déteignant sur la joue, cachant de maigres doigts jaunes et noirs debout, sous des habits puant la foire et tout vieillot, conversait avec la douceur des idiots. Et si l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement, c'était bon. Là, c'est un des moments les plus tragiques de l'existence de Rimbaud. Elle avait le bleu regard qui ment. Voyez la phrase de Nietzsche. Il y a des gens qui écrivent pour être compris. Moi, j'écris pour tenir à distance. Là, Rimbaud, c'est un aristocrate. Il n'en a rien à foutre de ne pas être compris. Très vite, il n'en a plus rien à foutre. Et les illuminations vont le prouver, l'incarner. Mais vous vous rendez compte ? Sous des habits puants, la foire et tout vieillot. Ça, c'est les enfants qui habitent à côté de chez lui. Conversaient avec la douceur des idiots. Et si l'ayant surpris à des pitiés immondes, sa mère s'effrayait. En gros, la mère n'est pas contente qu'il soit sensible aux gens modestes. Les tendresses, je me trompe peut-être, hein, les tendresses profondes de l'enfant se jetaient sur cet étonnement. C'était bon. Elle avait le bleu regard qui ment. À 7 ans, il faisait des romans sur la vie du grand désert, où lui, la liberté ravie, forêt, soleil, rive, savane. Il s'aidait de journaux illustrés ou rouges. Il regardait des Espagnols rire et des Italiennes quand venait l'œil brun folle en robe d'indienne. À 8 ans, la fille des ouvriers d'à côté, la petite brutale, et qu'elle avait sauté dans un coin sur son dos en secouant ses tresses et qu'il était sous elle, il lui mordait les fesses car elle ne portait jamais de pantalon. Et par elle, meurtri des poings et des talons, remportait les saveurs de sa peau dans sa chambre. Il craignait les blafards dimanches de décembre. Ça, c'est sublime. Il y a encore quelques petites influences de grand génie, mais il craignait les blafards dimanche de décembre. Ou, pommadé sur un guéridon d'acajou, il lisait une Bible à la tranche vert chou. Des rêves l'oppressaient chaque nuit dans l'alcôve. Il n'aimait pas Dieu, mais les hommes, qu'au soir fauve, noir en blouse, il voyait rentrer dans le faubourg où les crieurs en trois roulements de tambour font autour des édits rire et gronder les foules. Il rêvait la prairie amoureuse. Vous voyez, ça y est, ça commence. Là, il va nous quitter, là. Hein? Il rêvait la prairie amoureuse. C'est sublime. Il rêvait la prairie amoureuse où des houles lumineuses, parfums sains, pubescence d'or, font leur remuement calme et prennent leur essor. Et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité, il lisait son roman sans cesse médité, plein de lourds ciels creux et de forêts noyées, de fleurs de chair au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroute et pitié, tandis que se faisait la rumeur du quartier. Et là, c'est du génie parce que c'est la prophétie absolue de ce qui va arriver. En bas, seul et couché sur des pièces de toile écrues et pressentant violemment la voile. Non mais attendez là, ce mec... Si on résume, c'est ahurissant. Il parle de sa mère en disant « c'était bon, elle avait le bleu regard qui ment ». Hallucinant quand même dans sa relation à sa mère. Et puis après, il raconte qu'il aime les enfants modestes, pauvres. Après, il dit qu'il n'aime pas Dieu, mais qu'il aime les hommes, qui rentrent du boulot. Et puis ça continue, et comme il savourait surtout les sombres choses, quand dans la chambre nue aux persiennes closes, haute et bleue, âcrement prise d'humidité. Vous avez remarqué, quand on va à la campagne, on remarque toujours que les chambres sont âcrement prises d'humidité. Il lisait son roman sans cesse médité. Il a 17 ans. Il lisait son roman sans cesse médité, plein de lourds ciels creux et de forêts noyées, de fleurs de chair. On dirait le bateau ivre, au bois sidéral déployé, vertige, écroulement, déroute et pitié, et là, c'est génial, tandis que se faisait la rumeur du quartier, en bas, seul et couché, sur des pièces de toile écrues, et pressentant violemment la voile. Il a donc 17 ans, la voile va arriver dans 2-3 ans. D'abord, l'errance avec Verlaine, le dérèglement de tous les sens, l'absinthe, le haschich, l'horreur, la sexualité, le coup de feu, et puis après, l'Abyssinie. Bon, après, on arrive à une autre dimension de Rimbaud, c'est, eh oui, c'est le fameux aller retrouver, quoi ? L'éternité. C'est la mer aller avec le soleil. Aller à deux L et E, d'accord ? On n'y comprend plus rien, mais son génie est immense, on va déboucher sur les illuminations. Alors là, il y a quelques personnes qui accèdent aux illuminations, c'est incontestable. Mais je peux vous assurer que c'est immense. C'est immense, il y a la saison en enfer aussi. Mais les illuminations, là, c'est de la pure poésie. On peut s'amuser à en lire n'importe quelle. Hein. Vous verrez, c'est une chose complètement impossible. D'un gradin d'or, parmi les cordons de soie, les gazes grises, les velours verts et les disques de cristal qui noircissent comme du bronze au soleil, je vois la digitale s'ouvrir sur un tapis de filigranes d'argent, d'yeux et de chevelure. Des pièces d'or jaune semées sur l'agate, des piliers d'acajou supportant un dôme d'émeraude. Des bouquets de satin blanc et de fines verges de rubis entourent la rose d'eau. Tel qu'un dieu aux énormes yeux bleus et aux formes de neige, la mer et le ciel attirent aux terrasses de marbre la foule des jeunes et fortes roses. Là, là, ça y est, là, on est dépassé. Et le seul qui est accessible pour moi dans les illuminations, c'est le portrait de Verlaine. Ce fiancé, cette tragédie, car l'histoire de Rimbaud et de Verlaine est une histoire d'une pathétique, d'une horreur, d'une tragédie. La vie de Verlaine est très, très tragique. Mais quand on sait que le petit Rimbaud débarque à Paris, dans une rue où j'ai habité, où j'y suis quasiment né, rue Labat, à côté de la rue Bachelet, et que Il est arrivé, vous savez, venez, on vous attend, quand il envoie un tas de poèmes. Il a 14-15 ans, hein, et que Verlaine dit, mais c'est hallucinant, ce jeune homme qui m'envoie des poèmes de Charleville-Mézières, mais c'est un génie. Et il lui écrit, venez, on vous attend, Rimbaud monte à Paris, manque de bol, il se donne rendez-vous Gare du Nord, Rimbaud est caractériel, certainement il attend pas, il monte tout seul à pied, il débarque chez Madame Verlaine. Moi, j'y suis né dans cette rue, donc je la connais par cœur. Et là, il est très mal élevé, il veut bouffer tout de suite, il met ses pieds sur la table, et c'est une tragédie. Et puis après, hein, après, il est obligé de le loger ailleurs. Et puis après, Verlaine tombe amoureux de lui. Et là, c'est l'horreur. Il frappe sa femme, là, Verlaine. Alors là, on est en plein, là, le dérèglement de tous les sens. C'est pas gay, quoi. Enfin, c'est gay pour la création, mais pas gay pour le quotidien, quoi. Et puis après, c'est la longue marche en Belgique, en Angleterre, c'est la drogue, lui qui cherche le lieu et la formule. Et là, ce portrait raconte leur relation, alors vue par un homme d'une dureté incroyable. Je pense qu'il n'est pas saisissable, Rimbaud, psychiatriquement. Certainement, il avait une maladie particulière pour être de cet état de froideur. Ça s'appelle vagabond, pitoyable frère, et c'est évidemment Verlaine qu'il décrit. Pitoyable frère, que d'atroces veillées je lui dus. Je ne me saisissais pas fervemment de cette entreprise. Je m'étais joué de son infirmité. Par ma faute, nous retournerions en exil, en esclavage. Il me supposait un guignon et une innocence très bizarre. Et il ajoutait des raisons inquiétantes. Vous vous rendez compte, ces trois mots-là, il me supposait un guignon, c'est-à-dire il me supposait quelqu'un de chanceux et une innocence très bizarre. Ils ne se comprennent pas du tout, quoi. Et il ajoutait des raisons inquiétantes. Je répondais en ricanant à ce satanique docteur et finissais par gagner la fenêtre. Je créais par-delà la campagne traversée par des bandes de musique rare, les fantômes du futur luxe nocturne. Après cette distraction vaguement hygiénique, je m'étendais sur une paillasse. Et presque chaque nuit, aussitôt endormi, pauvre frère se levait, la bouche pourrie, les yeux arrachés tels qu'il se rêvait, et me tirait dans la salle en hurlant son songe de chagrin idiot. J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil. Et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route, moi, pressé de trouver le lieu et la formule. J'ai cet homme déterminé qui veut trouver le lieu et la formule. Et le pauvre Verlaine qui fait des scènes, parce que, vous avez compris, que d'atroces veillées je lui dus. C'était pas marrant les soirées. Je ne me saisissais pas fermement de cette entreprise. Il lui reproche de ne pas avoir de foi dans cette entreprise. Bon, Verlaine n'est pas content, d'accord. Et il me supposait un guignon et une innocence très bizarre. Je répondais en ricanant à ce satanique docteur. Pourquoi il l'appelle satanique docteur ? Et finissait par gagner la fenêtre. Et là, on ne comprend rien, mais ce n'est pas grave. Je créais par-delà la campagne traversée par des bandes de musique rare, le fantôme du futur luxe nocturne. Après cette distraction vaguement hygiénique, je m'étendais sur une paillasse, ça y est, là, on comprend, et presque chaque nuit, aussitôt endormi, c'est là, vous savez, les crises dans les couples, quoi. Tu veux dormir, et puis là, où le mec, la femme veut dormir, et le mec vient gueuler, etc. C'est incroyable. Le pauvre frère se levait, la bouche pourrie, les yeux arrachés tels qu'il se rêvait, et me tirait dans la salle en hurlant son songe de chagrin idiot. C'est une méchanceté, la vision qu'il a. J'avais en effet, en toute sincérité d'esprit, pris l'engagement de le rendre à son état primitif de fils du soleil. Et nous errions, nourris du vin des cavernes et du biscuit de la route, moi pressé de trouver le lieu et la formule. Et pourtant, si Verlaine n'avait pas été là, il n'y aurait jamais eu de Rimbaud. Parce que c'est Verlaine qui s'est battu pour que les livres sortent. On ne saura jamais qui est capable de nous dire s'il a compris toutes les illuminations, c'est-à-dire leur vie.
Les admirations littéraires de Fabrice Lucchini.
Je voudrais remercier Xavier Pestugia à la réalisation, Sébastien Royer à la technique, Thierry Dupin pour la musique, Emmanuel Garacino pour son aide dans la construction de ces émissions. J'ai envie de vous dire à dimanche prochain, si vous le désirez, à 19h20. Très bonne soirée à vous.